Bonjour tout le monde. Merci pour ce temps de louange, de prière, de Sainte-Seine. C'est tellement bon de pouvoir louer Dieu ensemble et puis de pouvoir maintenant aussi ouvrir sa parole ensemble. Et, avant de prendre le texte de ce matin, on va pas retourner dans Hébreux tout de suite. Il va falloir attendre la semaine prochaine. S'il y en a qui sont nouveaux en ce moment, on fait toute une série de prédications sur l'Épître aux Hébreux, qui est un des livres, une des lettres qu'il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais de temps en temps, on fait des petites pauses. Sinon, ce serait un peu trop lourd, peut-être. Donc, on a fait une pause pour Pâques. Et puis, on reprend du coup notre série la semaine prochaine. Et en attendant, ce matin, j'aimerais vous parler d'un texte de la Bible qui se situe dans 1 Pierre. Mais avant d'arriver dans 1 Pierre, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il dans notre salle aujourd'hui des étrangers, des gens qui ne sont pas français, mais qui sont actuellement, du coup, en France, forcément. Donc on a deux, trois, quatre, quelques-uns. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas français, qui sont devenus français? Ah voilà, donc il y en a qui lèvent deux fois la main, on est à la fois étranger et devenu français. Il y en a d'autres qui se sentent plus français maintenant que étranger peut-être avant. Et probablement que vous avez déjà, alors particulièrement vous, mais probablement d'autres aussi, on a déjà fait l'expérience d'être étranger dans un pays. Et pour certains, c'est des super souvenirs. Si vous avez fait des beaux voyages, vous vous souvenez de découvrir une nouvelle culture, d'apprendre des nouvelles choses, une nouvelle langue, etc. Et peut-être que pour d'autres, c'est des mauvais souvenirs. Alors, je me souviens que quand j'étais ado, on a eu la chance de partir, moi et ma sœur, dans deux pays différents. Ça faisait partie d'un programme d'échange avec le travail de mon père. Et puis moi, j'ai pu aller au Mexique et elle a pu aller en Chine. Et donc, à la même période, on est partis ensemble. Et pendant deux semaines, on allait dans le pays en question, accueilli par une famille. Et puis après, pendant deux semaines, l'enfant de la famille venait chez nous. Et donc, on avait un échange comme ça. Et moi, j'ai passé deux semaines extraordinaires à Mexico, à Puebla. On a visité, j'étais trop heureux. Par contre, ma sœur, elle a vécu deux semaines d'enfer. Rien à voir avec la Chine, évidemment. Mais en fait, ça s'est mal passé. Voilà, elle n'était pas bien, elle n'était pas à l'aise, la famille n'était pas très accueillante. Évidemment, elle ne parlait pas du tout la langue, elle parlait très peu anglais. C'était très compliqué pour elle. Et quand on est revenu, chacun a partagé son expérience. Alors, je n'osais pas trop dire combien c'était super ce que j'avais vécu, forcément. Mais quand on est étranger quelque part, c'est plus ou moins facile de le vivre, n'est-ce pas? Et vous le savez probablement, mais un des qualificatifs pour le chrétien, c'est qu'il est étranger. Étranger sur la terre. Nous sommes citoyens d'un autre royaume. Et alors là, c'est quel que soit finalement le pays duquel on vient, hein, si on est français ou autre. Si on est chrétien, nous sommes tous citoyens du même pays, du même royaume, le royaume de Dieu. Et il y a une grande tension encore actuellement. Alors, logiquement, j'avais quelques images, mais j'ai dû oublier de prendre la zapette, je suis désolé. Mais sinon, on peut passer, c'est pas grave, au fur et à mesure. Ou alors, elle a été posée là. Ah, elle est là, pardon. C'est moi, désolé. J'aurais dû préparer ça. Hein. Ça, c'était pour montrer qu'on vient de plein de pays différents, bref. Nous sommes donc citoyens du royaume de Dieu. Et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple d'être étranger dans le monde dans lequel on vit. Chaque chrétien peut témoigner que parfois être chrétien dans le monde dans lequel on est, c'est quelque chose de magnifique, mais parfois aussi, c'est quelque chose de lourd et de pesant. Et des fois, on attend avec hâte que Jésus revienne pour qu'il instaure son royaume définitivement et qu'on puisse être tous citoyens de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre, et enfin de pouvoir se dire, ça y est, il n'y a plus rien qui nous empêche de vivre cette identité parfaitement. En attendant, il nous faut tenir ferme, parce que nous ne sommes pas encore dans ce royaume. Et les chrétiens, à qui l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, ont bien conscience de cette réalité. Ils souffrent à cause de leur foi. On est au début des années 60, après la naissance de Jésus, sous l'empereur Néron, Et Pierre veut que les chrétiens, les disciples de Jésus, continuent de vivre une vie victorieuse dans leur foi malgré l'hostilité. Alors, ils vivent des hostilités, des persécutions qui ne sont probablement pas des persécutions étatiques, dans le sens où ce n'est pas vraiment l'empire qui les persécute, mais on le voit dans la lettre, il est question de calomnies, d'injures, de violences physiques, de rejet social, etc. Et tout ça à cause de leur obéissance à Dieu, de leur imitation de Jésus et de leur profession de foi chrétienne. Bref, les chrétiens à qui Pierre écrit, eh bien, ils sont dans ce monde, mais ils vivent la réalité de la difficulté de finalement être des étrangers dans ce monde. Alors Dieu veut les Dieu, pardon. Pierre, oui, Dieu à travers Pierre veut les encourager et il va insister particulièrement sur l'espérance du chrétien. Et cette espérance qui leur permet de vivre une vie sainte et d'être dans une bonne attitude en attendant le retour de Christ. En gros, Pierre leur dit, vous appartenez à un autre royaume, mais en attendant, vous êtes dans ce monde. Alors soyez exemplaires dans votre attitude, persévérez dans votre attachement à Dieu. Et cela vous permettra d'être irréprochable devant vos détracteurs. Si je devais résumer l'ensemble de l'épître, je ne sais pas si c'est sage de faire ça, mais je dirais, ne lâchez rien. Quelque part, Pierre dit aux chrétiens dans les années 60 de notre ère, ne lâchez rien. Et je pense que Dieu veut nous dire ça aussi aujourd'hui. Ne lâchons rien. Nous aussi, nous voulons, en tant que chrétiens à Antibes, peut-être dans d'autres villes si vous êtes de passage, on veut se laisser encourager par les propos de Pierre ce matin pour tenir bon dans notre foi, malgré les hostilités que l'on peut vivre, ou que nous vivons peut-être maintenant, que certains vivent peut-être maintenant, ou que d'autres ont déjà vécu, ou vivront peut-être plus tard. Mais on va se concentrer ensemble sur les premiers versets où Pierre dit, ne lâchez rien, parce que vous avez une espérance vivante. Alors je vous propose de prendre avec moi l'épître de Pierre, on va lire les 12 premiers versets du chapitre 1. 1 Pierre, voilà, chapitre 1, versets 1 à 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse. Quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Voilà pour la parole de Dieu ce matin. Si je devais résumer ce passage, je dirais, nous pouvons tenir ferme dans notre foi parce que nous avons l'espérance d'un autre royaume. Nous pouvons tenir ferme dans notre foi, les amis, quelle que soit la difficulté, même si parfois on se sent comme des étrangers dans ce monde, on peut tenir ferme dans notre foi parce que nous savons que nous avons une espérance, l'espérance d'un autre royaume. Et on va naviguer dans ce texte en se concentrant sur quatre qualificatifs du chrétien qui est étranger dans ce monde. On verra d'abord qu'on est des étrangers choisis, des étrangers confiants, des étrangers éprouvés et des étrangers privilégiés. Regardons pour commencer les premiers versets, les versets 1 à 2. Je vais les relire parce qu'ils sont assez denses, ces versets. Versets 1 à 2. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On a dans cette introduction trois vérités essentielles. Premièrement, Pierre dit que les chrétiens sont des étrangers dans la dispersion. Alors, comme on l'a dit déjà auparavant, hein, on le sait, les chrétiens sont étrangers, on appartient à un autre royaume, le royaume de Jésus-Christ. Et en fait, toute la Bible nous parle de cette grande histoire, de ce roi divin qui est venu sur terre il y a 2000 ans pour instaurer son royaume. Un royaume dans lequel tous les sujets pourront vivre en pleine harmonie entre eux et avec le roi. Ça fait rêver, hein, la pleine harmonie dans une société. On en est loin aujourd'hui, quel que soit le pays duquel on vient. Et cette harmonie entre Dieu et l'être humain, entre les hommes et les membres de ce royaume céleste, cette harmonie existait au tout début de la création. Mais elle a été brisée par le péché, par le mal. Ce moment où le premier couple, Adam et Ève, ont fait le choix de sortir Dieu de leur vie et de faire leur propre choix, de se détourner de Dieu. Et depuis, la Bible n'a de cesse de parler de ce royaume de Dieu, ce nouveau royaume que Dieu met en place petit à petit dans l'histoire de l'humanité, en commençant par un peuple, Israël, et puis maintenant ouvert à l'ensemble de l'humanité. Ce royaume où tous peuvent entrer, parce que la porte est ouverte à tous. Et la porte est une personne, Jésus-Christ. Celles et ceux qui croient en Jésus, qui se repentent de leurs péchés, entrent dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jean-Baptiste a proclamé, première fois qu'il voit Jésus arriver, en tout cas pour son ministère public. Et avant même que Jésus arrive, il disait « Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, repentez-vous. » Ce roi d'un nouveau royaume, pour le moment, qui n'est pas encore complètement instauré, qui le sera un jour quand il reviendra, mais qui est en tout cas déjà ouvert pour celles et ceux qui veulent entrer dans ce royaume. Et voilà en quoi les chrétiens sont étrangers, dispersés dans le monde. Et on l'a vu, il y a plusieurs nationalités ce matin qui sont représentées parmi nous, c'est extraordinaire. Nous sommes dispersés dans le monde, les chrétiens sont dispersés dans le monde. Donc on est des étrangers dans la dispersion, mais nous sommes des étrangers qui avons été choisis par Dieu. Et là, on se trouve face à un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Certains diront peut-être un des plus beaux mystères de la foi chrétienne. Pierre nous dit que nous avons été élus selon sa préscience. Alors, ce n'est pas un mystère dans le sens où c'est difficile à comprendre intellectuellement. Mais c'est un mystère dans le sens où il fait appel à des vérités qui semblent être opposées, ou en tout cas qui le sont pour nous aujourd'hui, dans notre compréhension des choses. Mais la Bible le présente comme cela. La Bible est la parole de Dieu. Et en ce sens, nous ne devrions jamais vouloir qu'elle soit écrite autrement, ou bien qu'elle enseigne autre chose. La Bible affirme, Pierre affirme, que les croyants sont élus, choisis de toute éternité par Dieu pour célébrer sa gloire. Et que donc, par conséquent, les incroyants sont désapprouvés, condamnés par Dieu, manifestant ainsi la justice de Dieu. L'élection chrétienne repose sur trois vérités fondamentales, essentielles. Premièrement, l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu est amour qu'il choisit de sauver des personnes. C'est parce qu'il aime sa création qu'il veut sauver des personnes qui sont marquées par le péché et condamnées à cause de leur refus de Dieu et de leur désobéissance à Dieu. En fait, on pourrait le dire comme ça. Si aujourd'hui, personne dans l'histoire de l'humanité n'avait été sauvé de la condamnation du péché, eh bien, ce serait parfaitement juste de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime, il offre une autre possibilité que le châtiment éternel. Il offre le salut en Jésus-Christ. Dieu choisit parce qu'il aime. Dieu choisit aussi parce qu'il est rempli de grâce. Et si il est rempli de grâce, cela veut dire que le fait d'être aimé, sauvé, gracié par Dieu est complètement indépendant de toute œuvre humaine. Et Paul l'expliquera dans l'Épître aux Romains, il prendra l'exemple de Jacob, de Ésaü. Il dit qu'ils n'étaient même pas encore nés, hein. Les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure, selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il a aimé l'un et rejeté l'autre. Et puis la troisième vérité essentielle, c'est que l'élection a pour objet suprême la manifestation de la gloire de Dieu. L'objectif de l'élection, si Dieu choisit de sauver des personnes, c'est pour sa propre gloire. C'est pour sa propre gloire. Et personne ne pourrait dire qu'il est par lui-même capable de rendre gloire à Dieu. Parce que la Bible démontre que nous sommes tous marqués par le péché et la désobéissance. Heureusement que Dieu, dans sa grâce et par amour, nous a sortis du marasme du péché. Voilà comment Spurgeon, chrétien, prédicateur, 19e siècle, l'écrit, il dit « Je crois en la doctrine de l'élection parce que je suis absolument certain que si Dieu ne m'avait pas choisi, moi je ne l'aurais jamais choisi. Je suis certain qu'il m'a choisi avant ma naissance car il ne m'aurait jamais choisi après. Et il a dû me choisir pour des raisons que j'ignore car je n'ai jamais pu trouver en moi-même une seule raison pour laquelle il aurait dû me considérer avec un amour spécial. » C'est bien écrit, hein ? Des fois, j'aimerais bien pouvoir écrire ou parler comme ça, mais bon, on n'a pas tous les mêmes dons. Hein. Une autre manière de le dire, voilà ce que Martin Luther écrit et dit, « Élus non pas de nous-mêmes, mais selon l'ordre de Dieu, car nous ne nous introduirons pas nous-mêmes dans le ciel, pas plus que nous ne créons nous-mêmes la foi dans nos cœurs. Dieu ne laissera pas entrer indistinctement tous les hommes dans le ciel. Il comptera exactement les siens. » Ici, la doctrine du libre arbitre et de nos propres forces ne signifie rien. Il ne s'agit pas de notre propre volonté, mais de la volonté de Dieu et de son élection. La question est donc, n'avons-nous aucune responsabilité pour entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien si, nous avons la responsabilité de nous convertir. C'est-à-dire de nous repentir de notre péché et de croire en Jésus, de croire en ce que Jésus a accompli pour nous sauver. C'est ce que nous nous sommes rappelés juste avant, lors de la présidence de ce culte. Oui, la prédestination est du ressort de Dieu, mais la conversion est du ressort de chacun d'entre nous. Même si l'homme ne peut se convertir que s'il est prédestiné. Et il y a là le fameux mystère dont je parlais tout à l'heure. La Bible affirme ces deux réalités. Pour le dire autrement, aucun croyant au jour du retour de Jésus ne pourra dire « C'est moi qui ai choisi Dieu et je mérite d'être sauvé. » Tous diront « J'ai été choisi par Dieu, par pure grâce et j'ai répondu à cet appel par la repentance et la foi en Jésus. » Et aucun incroyant lors du retour de Jésus ne pourra dire « J'aurais tellement aimé que Dieu me choisisse, mais il m'a rejeté. » Non. Tous diront, je l'ai rejeté consciemment et je mérite le châtiment éternel de Dieu. Et cette doctrine est à la fois merveilleuse, juste. Elle nous montre autant l'amour, la grâce, que la justice et la colère de Dieu qui ne peut laisser le péché impuni. Alors attention. Attention à ne pas vouloir faire coller les vérités bibliques à notre logique. Et c'est malheureusement ce qui peut arriver parfois et ce qui aboutit toujours à des non-sens. La Bible n'a pas à être logique, selon nous. Dieu n'a pas à rentrer dans notre logique. Un cher frère me disait, si une machine à laver comprenait l'ingénieur qui l'a conçue, ce ne serait plus une machine à laver, ce serait un ingénieur. Si on comprenait parfaitement Dieu, on ne serait plus des êtres humains, on serait Dieu. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement. Et c'est OK. Et c'est bon. Ça nous montre que Dieu est Dieu et qu'il doit rester à sa juste place. Alors Pierre dit que nous sommes étrangers dans la dispersion, que les chrétiens sont élus par Dieu. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant. Je suis désolé, je me suis arrêté un peu longuement sur ça. Pierre nous montre aussi la grandeur insondable de Dieu. Et vous avez vu dès le début, il est extraordinaire de montrer que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sont présents dans l'œuvre du salut. Alors je ne vais pas parler maintenant de la doctrine de la Trinité, je vais vous laisser avec ça, je ne vais pas faire tout ce matin. Mais regardez combien il est bon, glorieux et merveilleux de voir que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit sont investis chacun dans l'œuvre de salut, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Nous avons été aspergés par le sang de Jésus. Alors là, peut-être si vous n'êtes pas habitué de la Bible, vous vous dites, c'est quoi ce truc? On a été aspergés par le sang de Jésus. Alors ça, pour un juif du 1er siècle, c'était assez simple à comprendre. C'est que dans la loi, en fait, il y avait la notion d'aspersion du sang quand il y avait des sacrifices. Et puis le prêtre aspergeait le sang du sacrifice, soit sur l'autel, soit sur la personne qui venait offrir le sacrifice, parfois sur les deux. Et il y a même au moment de l'alliance, quand l'alliance, l'ancienne alliance est scellée dans Exode 24, on voit Moïse qui asperge le peuple de sang du sacrifice. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Tout simplement pour montrer symboliquement que à la fois le peuple et à la fois Dieu s'engagent dans cette alliance. Quand le sang était aspergé sur l'autel, c'était pour montrer que Dieu s'engageait dans l'alliance. Et quand le sang était aspergé sur une personne ou sur le peuple, c'était pour montrer symboliquement que les personnes s'engageaient à l'obéissance de la loi. Et donc Pierre déclare ici que lorsque les croyants se placent spirituellement sous l'aspersion du sang de Jésus, ça veut dire qu'ils concluent une alliance d'obéissance avec Christ. Christ les a sauvés. Son sang a coulé pour nous, pour tous les croyants. Mais parce que nous avons été aspergés par le sang de Jésus, nous nous engageons aussi à une vie d'obéissance à Jésus-Christ. Et la vie chrétienne n'est pas simplement une vie où je suis sauvé pour faire ce que je veux, même prédestiné pour faire ce que je veux. Non, je suis sauvé, aimé, gracié, pour faire la volonté de Dieu et pour rendre gloire à Dieu. Et ces vérités devraient nous encourager, nous émerveiller. Dieu a œuvré de toute sa personne pour nous sauver. Il nous a choisis et il attend de nous une obéissance parce que c'est ce qui est bon pour vous, pour nous. C'est ce qui nous permettra de tenir ferme dans notre foi parce que nous avons l'espérance d'un autre royaume. Et on va aller un petit peu plus rapidement encore pour la suite. On voit que nous sommes des étrangers confiants, versets 3 à 5. Regardez ce que Pierre écrit. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Vous voyez, Pierre a commencé en montrant l'œuvre de Dieu pour notre salut. Et maintenant, il est poussé à la louange à Dieu. Et il insiste sur deux réalités. La première, il dit, nous sommes régénérés. Quand Jésus est mort, nous sommes morts à notre ancienne vie, à notre péché, si nous plaçons notre foi en lui. Et par sa résurrection, nous avons été régénérés. Ça veut dire que nous avons une nouvelle vie avec lui, même si nous sommes encore dans ce monde pécheur. On raconte une histoire. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Il y a de nombreuses années, à une époque où la lèpre faisait des ravages en Europe, Il y avait des léproseries, je ne savais pas que ça existait, des lieux où on mettait les lépreux ensemble pour éviter qu'ils soient contagieux pour l'ensemble de la population. Ils étaient mis en quarantaine et ils étaient finalement abandonnés dans ces lieux-là qui étaient fermés par des hauts murs, des remparts. Et les gens qui étaient là attendaient tout simplement la mort. Et donc, c'était souvent des hommes et des femmes de Dieu qui s'occupaient de ces personnes-là. C'était l'Église qui prenait soin d'eux. Et dans une de ces léproseries, un homme était différent des autres. Il gardait les yeux ouverts. Il lui arrivait même de sourire par moments. Et donc, la personne, la religieuse qui s'occupait d'eux, qui s'occupait de toutes ces personnes, se dit, mais pourquoi cet homme garde le sourire? Pourquoi cet homme garde de l'espoir? Alors elle décide de l'observer et de regarder ce qui se passe. Et elle se rend compte que chaque jour, à un moment donné, au-dessus du mur, il y a un visage qui apparaît, le visage d'une femme, qui lui sourit et lui sourit à cette femme aussi. Alors elle va voir cet homme, elle dit, mais je vous ai vu plusieurs jours d'affilée, cette femme qui vient vous sourire, qui est-elle? Eh bien voilà, c'est mon épouse. C'est ma femme. Et avant que je vienne ici, elle m'a soigné en cachette. Mais le mal a progressé, on m'a emmené ici et elle m'a suivi. Et lorsque chaque jour je la vois, je sais que je suis vivant. Et je lui dis merci. Cette histoire, c'est une parabole de la puissance de résurrection que nous avons en tant que chrétiens. Cette femme, c'est quelque part l'image du Christ. Et le lépreux qui est dans ce monde marqué par le mal, le péché. Et il survit, il résiste, il combat, il espère. Pourquoi? Parce qu'il sait que de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un qui pense à lui, qui prie pour lui, qui pleure avec lui, qui le regarde et qui lui sourit. La semaine dernière, nous avons fêté la résurrection de Jésus. Christ est ressuscité. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons cette ferme assurance que nous ne sommes pas abandonnés dans notre vie. Ni aujourd'hui, ni demain, il existe quelqu'un qui croit en nous, quelqu'un qui prie avec nous, quelqu'un qui nous sourit, quelqu'un qui nous appelle à la vie. Nous avons été régénérés pour une vie nouvelle par la résurrection de Jésus, pour une espérance vivante. Et vous avez vu comment Pierre parle, pardon, de cette espérance. Un héritage extraordinaire. Et le monde ne peut proposer que des espoirs qui connaîtront la mort. Mais ici, cet héritage, cette espérance vivante, elle est pour l'éternité. C'est un héritage qui ne peut pas se corrompre, parce que c'est Dieu lui-même qui est notre héritage et là qui est la source de la vie éternelle. C'est un héritage qui ne peut pas se souiller par opposition au monde rempli de péché où les choses les plus saintes peuvent être contaminées par le mal. C'est un héritage qui ne peut pas se flétrir. Contrairement aux plus belles fleurs qu'on peut avoir sur notre table ou à l'entrée de l'église, mais qui un jour faneront. C'est un héritage qui nous est réservé dans les cieux, loin de ce monde pécheur dans lequel nous vivons autant la joie que la tristesse. Un héritage qui nous sera révélé dans les derniers temps. C'est pas encore tout de suite. Il faut être patient. Et vous le savez, on peut tout perdre dans ce monde. Et j'aimerais nous encourager à regarder non pas uniquement à ce qu'on a aujourd'hui, à ce qu'on vit aujourd'hui, même si on est dans une léproserie, mais regardons à ce que Dieu nous a réservé dans les cieux. Voyons le visage de Jésus ressuscité qui nous dit, la vie ne s'arrête pas là. On peut tout perdre, mais nous avons un héritage qui ne s'arrêtera jamais. Nous sommes donc des étrangers confiants dans ce monde, confiant dans l'espérance que Dieu nous donne, et nous sommes aussi des étrangers éprouvés. À partir du verset 6, on peut lire, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Oui, nous sommes des étrangers éprouvés, mais nous avons la joie de l'héritage, une joie qui ne qui est là pour toujours. Et ça doit nous interpeller parce que si cet héritage dont on a parlé tout à l'heure ne peut ni se souiller ni disparaître, alors on a une source de joie qui ne tarira jamais. Et quelle que soit la situation dans laquelle on est, quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, on peut rester confiant dans cet héritage que nous avons. Et quand Pierre écrit à ces chrétiens, il a bien conscience qu'ils sont éprouvés. Hein. « Quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves » au verset 6. Et on les connaît, ces épreuves qui sont inhérentes à la vie chrétienne. Ces souffrances à cause de notre foi. Ce n'est pas toujours facile d'assumer sa foi, d'assumer les valeurs de l'Évangile dans notre monde. Que nous soyons un adolescent moqué au collège ou au lycée parce qu'on refuse de faire n'importe quoi. Ou par exemple, on veut se préserver pour le mariage. Que l'on soit un employé dénigré au travail par ses collègues parce qu'on a simplement refusé d'entrer dans la médisance et la critique. Peut-être qu'on peut être un travailleur harcelé par son patron parce qu'on refuse de faire quelque chose d'illégal que pourtant il est en train de nous demander. Ça peut être le membre d'une famille aussi qui se voit rejeté par ses frères, ses sœurs, ses parents ou ses enfants tout simplement parce qu'il a choisi d'aimer Jésus plus que tout. Ou un conjoint persécuté par son mari ou son épouse parce que Dieu l'a sauvé après son mariage. Beaucoup sont calomniés, injuriés, violentés, rejetés à cause de leur foi. Et la Bible ne se tait pas sur ces réalités. Mais elle nous invite à puiser nos forces en lui et dans cet héritage pour renouveler notre joie. Et vous le savez, les épreuves, elles vont épurer notre foi afin de lui donner une grande valeur. Il paraît que les plus beaux meubles en bois viennent d'arbres qui ont été marqués par les tempêtes. Pourquoi ? Parce que les fibres du bois sont beaucoup plus serrées, parce que les fibres du bois sont beaucoup plus belles et vont un peu dans tous les sens, alors qu'un arbre qui n'a jamais été éprouvé par la tempête, paraît-il, est de moins bonne qualité pour fabriquer des meubles. Aucune souffrance humaine ne peut enlever la valeur que nous avons devant Dieu. Les épreuves sont donc un sujet de louange, de gloire et d'honneur, c'est ce que nous dit Pierre. C'est pas facile de le lire et de l'assumer comme ça, mais nous pouvons proclamer de notre vivant, nous pouvons le dire, que malgré les épreuves, encore une fois, nous savons que nous avons un héritage, que Jésus est ressuscité. Et ça nous aide à traverser ces épreuves. Dernière partie, des étrangers qui sont privilégiés. Et je vais lire les derniers versets de notre texte de ce matin, les versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de leur salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Alors ce texte, moi, il m'étonne toujours. Je le trouve incroyable, ce texte. Mes amis, quel privilège nous avons d'être dans cette nouvelle alliance. De Moïse à Malachie, tous les prophètes ont été fascinés par leur propre prophétie inspirée par Dieu sur le salut à venir. Ils connaissaient Dieu et même certains, comme Moïse, parlaient avec Dieu. Et pourtant, ils avaient tous conscience qu'il leur manquait quelque chose, qu'ils n'avaient pas pleinement tout ce que Dieu pouvait leur offrir. Ils avaient conscience qu'un jour, il se passerait quelque chose de nouveau, que le salut prendrait une dimension encore plus grande, encore plus merveilleuse que ce qu'ils connaissaient. Et ils ont étudié la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, les prophéties. Ils ont cherché, travaillé pour essayer de comprendre la grâce qui se manifesterait par le Messie. Et mes amis, si la grandeur du salut à venir est le sujet de la préoccupation de tous les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, cette question devrait aussi nous préoccuper, nous, en tant que chrétiens contemporains du XXIe siècle, de l'autre côté de la croix, parce que nous bénéficions pleinement de la révélation. Et quand je vois avec quel entrain, quelle importance les croyants de l'Ancienne Alliance étudiaient le salut de Jésus-Christ, le salut dans le Messie qui allait venir, je me dis, mais est-ce que moi je l'étudie aussi avec le même entrain, avec la même passion ? N'arrêtons jamais d'étudier le salut. Que ce soit par les groupes de maison, les formations bibliques, les Matters, les Primes, les Buzz, Fusion, les groupes de femmes, d'hommes, Bible Brunch, le discipulat, les cultes, les livres, la communion fraternelle, et j'ai sûrement encore oublié des choses de ce qu'on vit dans l'Église. Mais tout ça, les amis, tout ça est mis en place pour que nous puissions étudier et nous émerveiller du salut que Christ nous donne. Depuis des milliers d'années, des gens s'émerveillent, des gens travaillent, cherchent pour comprendre le salut de Christ. Et certains y voyaient que les balbutiements. Et nous, parfois, on est tellement ingrats. Et on ne prend même pas le temps d'étudier la parole de Dieu, d'étudier notre salut. L'Esprit-Saint qui venait de Christ était déjà présent pour les inspirer, pour leur donner de comprendre ce qu'ils devaient comprendre. Et l'Esprit-Saint qui vient de Dieu, qui vient de Christ, habite en nous. Vous vous rendez compte de ça ? C'est un des plus beaux privilèges de la Nouvelle Alliance. C'est que Dieu, le Saint-Esprit, habite dans chacun des croyants. Et il nous révèle à nous aussi tout ce que nous devons comprendre du salut. Quel privilège ! Et même les anges, ils aimeraient connaître ça. Parfois, on pourrait envier les anges. On se dit, ils ont une vie, je ne sais pas, incroyable avec Dieu et... Ils ont une connaissance de Dieu qui est incroyable. Ils vivent auprès de Dieu. Ils vivent une sainteté parfaite. Hein, les anges n'ont jamais chuté. Et ceux qui ont chuté n'ont pas accès à la repentance. Et voilà pourquoi est-ce que, je pense, ici, Pierre dit que les anges désirent plonger leur regard dans le salut offert en Jésus-Christ. Parce que nous connaissons quelque chose de Dieu que eux ne connaissent pas. C'est la grâce de Dieu. C'est le pardon de nos péchés. Eux qui sont pleinement avec Dieu, qui sont dans la sainteté, ne connaissent pas ce privilège que c'est de pouvoir aller à la croix, demander pardon à Dieu pour nos péchés et de savoir que nous avons été pardonnés parce que Christ s'est offert, parce que le sang a coulé et qu'il nous aime de toute éternité, qu'il nous fait grâce, qu'il nous relève. Mais quel privilège ! Et même les anges, quand ils voient ça, ils se disent « Mais nous, on ne connaît pas ça !» Oui, on connaît Dieu parfaitement, mais ça... La beauté d'un cœur repentant, soulagé de venir à la croix et de faire confiance à Jésus-Christ pour son salut, pour son pardon, pour sa purification. Quel privilège. Alors j'espère que ces quelques mots nous émerveillent ce matin. On peut tenir ferme dans notre foi parce que nous avons l'espérance d'un autre royaume. Dieu a fait de nous des étrangers sur cette terre. Il nous a sauvés de la condamnation éternelle du péché. Il nous offre un nouveau royaume dont Jésus-Christ est la porte, une espérance vivante qui ne bougera jamais. Alors oui, on l'attend, ce royaume. On a quelque chose pour l'instant, mais il nous manque encore tellement de choses. Et toutes les afflictions du temps présent ne feront que nourrir notre foi et notre espérance. Adèle Kam, qui est une chrétienne qui a œuvré à l'accompagnement spirituel de malades à la fin du XIXe siècle, était elle-même en train de mourir en agonie. On lui fit une dernière piqûre de pantopon, je ne sais pas ce que c'est, probablement un médicament, quelque chose, et puis elle revient à elle et elle reprit connaissance. Mais bizarrement, elle laissa paraître un sentiment de regret. Tant, disait-elle, les choses qu'elle avait aperçues étaient merveilleuses. Jésus revient bientôt. Amen.